France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, il est 8h30 sur France Culture et vous écoutez Jean-Luc Gadreau pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Alors, cette semaine est sorti en librairie un nouveau livre publié par les éditions Biblio, Défis et espérances pour le climat, par Catherine Eau, avec ce sous-titre Plaidoyer réaliste et apaisé d'une climatologue. C'est un ouvrage très bien documenté, accessible, ancré dans notre vie réelle et qui incite à réagir avec espérance au dérèglement climatique. Vous y découvrirez une scientifique qui parle avec grande humanité, dont l'optimisme est contagieux. Il est sorti en collaboration avec le programme LIVE européen et l'association Arocha. Et cela me donne l'occasion ce matin d'accueillir au micro de Solae le directeur national d'Arocha France, Jean-François Mouhot. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bienvenue dans Solae.
Merci.
Après avoir vécu plus de 10 ans à l'étranger, autant à travailler dans la recherche universitaire en histoire de l'environnement, Jean-François, vous avez rejoint l'équipe d'Arocha en juin 2014. Vous y avez dirigé le centre des Courmettes pendant 6 années et vous travaillez désormais donc au développement national de l'association en ayant pris ce poste de directeur national. Arocha, c'est une association chrétienne de protection de l'environnement présente dans plus de 20 pays dans le monde avec deux missions principales. Mobiliser les chrétiens autour de la crise écologique et préserver le vivant. Alors, pourquoi avez-vous rejoint cette structure et choisi de consacrer votre vie à ces missions, Jean-François ?
Alors, j'ai commencé à travailler dans ma vie professionnelle comme chercheur, effectivement, en histoire de l'environnement, avec déjà un intérêt vraiment pour l'histoire du climat aussi, et les questions, tout ce qui concernait en fait les enjeux climatiques, comment les hommes avaient appréhendé ces enjeux écologiques au cours des siècles, comment ils avaient modifié l'environnement autour d'eux, donc avec une vraie préoccupation pour les questions écologiques aujourd'hui, mais en regardant un peu dans le passé comment les hommes s'étaient occupés de ces questions.
On n'était pas à une époque où on en parlait comme aujourd'hui.
Alors voilà, mon intérêt a vraiment commencé il y a une vingtaine d'années. Effectivement, c'était un sujet qui était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, avec relativement peu de prise de conscience, notamment dans les églises. Et donc j'étais aussi pratiquant dans une église au moment où j'ai vraiment pris conscience de cet enjeu écologique et en particulier climatique. Et à un moment donné, je me suis vraiment senti appelé au travers des lectures que je faisais, de ce que je découvrais au travers de mes recherches, etc., de vraiment aller pour parler de ce sujet, en particulier auprès du monde chrétien qui, comme vous l'avez dit, était peu sensibilisé à ce sujet, sur ce sujet il y a quelques années encore. C'est un peu moins le cas maintenant. Et c'est ça qui m'a amené à m'engager pour Arocha, parce que j'avais vraiment cette envie aussi de pouvoir parler de ma foi. Parce que quand je faisais des conférences sur le sujet de l'écologie pour un public académique, non particulièrement chrétien, j'étais limité dans les réponses aussi que je pouvais apporter quand on posait des questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et là, si je peux pas parler de ma foi...
Vos convictions étaient un enjeu dont vous...
Il était difficile de parler dans un contexte non chrétien. Ouais.
J'évoquais ce livre de Catherine Eau, qui vient tout juste de sortir. Alors, nous allons en parler. Mais avant, quelques mots peut-être sur cette femme.
Oui, alors Catherine, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement connu en France, mais qui est beaucoup, beaucoup plus connu aux États-Unis parce qu'elle a la spécificité d'être donc climatologue. Elle est chercheuse en climatologie, professeure dans une université au Texas. Et puis, elle a commencé un peu, aussi il y a 20-25 ans, à parler de ce sujet et aussi en tant que chrétienne évangélique.
Donc, comme vous, en fait.
Voilà, tout à fait.
Des points communs.
Et dans un pays, en fait, aux États-Unis, qui est peut-être encore plus polarisé sur la question du climat que l'est la France.
On le voit en ce moment, notamment.
Voilà. Alors, elle n'est pas elle-même américaine, elle est canadienne, fille de missionnaire. Elle a grandi aussi en Colombie. Elle a fait des études, donc un doctorat en climatologie. Puis ensuite, elle est partie au Texas pour enseigner là-bas. Et elle a rencontré un peu ce choc culturel en étant... son mari est pasteur et en allant dans les églises du sud du Texas, qui est est la partie la plus peut-être conservatrice.
La Bible Belt.
Voilà, la Bible fameuse. Belt. Elle a vraiment rencontré ce choc de culture, ouais. En fait, et ça l'a amenée à devenir vraiment une communicatrice hors pair sur les questions de climat. Pour vous donner quelques idées de qui elle représente aux États-Unis, dans les derniers jours du mandat d'Obama, de Barack Obama, elle a fait un live depuis la Maison Blanche avec Barack Obama et Leonardo DiCaprio pendant 2 heures ou 3 heures pour parler du climat. Elle a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes par Times Magazine.
Ouais,
donc on voit que c'est quelqu'un qui a une influence. Voilà, tout à fait.
Vous venez de présenter Catherine Heo. Je vous propose de l'écouter quelques instants, ce qui nous permettra de comprendre un peu sa pensée, d'appréhender en tout cas ce qu'elle souhaite nous transmettre. Et je vais traduire en même temps ce que Catherine nous dit là.
I'm a climate scientist. And I study climate change because
je suis climatologue et j'étudie le changement climatique parce qu'il devient rapidement l'une des grandes menaces auxquelles nous devons faire face. Mais je l'étudie parce que je suis aussi chrétienne. Le changement climatique nous affecte tous, mais il ne nous affecte pas tous de manière égale. Il touche particulièrement les pauvres, les vulnérables, les marginalisés, ceux-là même que nous sommes appelés à aimer et protéger. Il a également un impact plus important sur les générations futures et sur les enfants, plus que sur nous, les adultes. Et cela n'est pas juste. Alors, que pouvons-nous faire en tant que chrétiens? Eh bien, je crois que si nous prenions la Bible au sérieux, nous serions en première ligne pour exiger une action climatique. De quel type d'action avons-nous besoin? On me demande souvent, avons-nous besoin d'actions individuelles pour réduire nos émissions personnelles de carbone? Ou avons-nous besoin d'actions systémiques qui changent le système pour tout le monde? Et ma réponse à cette question est oui, nous avons besoin des deux. Car comment un système change-t-il? Autrement que lorsque les personnes à l'intérieur de ce système demandent qu'il change. Et quand on regarde comment nos systèmes sociaux ont changé dans le passé, ils ont changé lorsque les gens, souvent motivés par leur foi, ont utilisé leur voix pour à plaider pour et voter pour la justice. Alors comment pouvons-nous faire une différence? Nous pouvons apporter des changements dans notre manière de vivre personnelle, mais plus encore, nous pouvons utiliser notre voix là où nous vivons, là où nous travaillons, et bien sûr dans nos églises, pour appeler à des actions que nous pouvons accomplir ensemble. Mais plus que tout, nous pouvons être fidèles à qui nous sommes, parce qu'en tant que chrétiens, nous croyons que nous sommes des nouvelles créatures. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Ézéchiel, il est dit que nous avons reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ensuite, en combinant quelques versets, le Nouveau Testament dit aussi que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous fassions comme nous l'avons résolu dans notre cœur, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est très clair que nous sommes appelés à subvenir aux besoins physiques de ceux qui souffrent. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, nous sommes également clairement appelés à plaider en faveur des changements sociétaux systémiques dont nous avons besoin. Des changements qui, à mon avis, sont incarnés dans les objectifs de développement durable qui prônent simplement la fin de la pauvreté et de la faim, une bonne santé, une éducation de qualité, l'égalité des sexes et une eau propre. Tout le monde mérite ces droits essentiels, fondamentaux. Je crois donc sincèrement que se soucier de la création de Dieu, des hommes et des autres êtres vivants qui sont déjà aujourd'hui affectés par le changement climatique est une véritable expression de notre foi, une acceptation fidèle de notre responsabilité, une véritable expression de l'amour de Dieu, parce que la seule chose qui compte, comme nous dit l'apôtre Paul dans Galates, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Martin Kopp, qui est déjà venu plusieurs fois dans Solae, Jean-François Mouhot, qui est notamment le président de la commission écologie, justice climatique de la Fédération protestante de France, dit de ce livre « Défi et espérance pour le climat, plaidoyer réaliste et apaisé d'une climatologue ». Plus qu'un point sur la science, Catherine Heo fournit une approche solide pour parler du climat à partir de ce qui réunit les gens et témoigne du caractère essentiel de l'action comme chrétien. Un livre précieux. Mm-hmm. Ça vous parle?
Oui, je crois que Martin a bien résumé effectivement le propos du livre. C'est à la fois une excellente, je trouve, introduction, enfin qui va quand même assez loin, mais c'est une excellente présentation de la science du climat pour à la fois les gens qui découvriraient un petit peu ou qui sont pas forcément forcément des climatologues chevronnés, mais qui ont cet intérêt pour en découvrir un petit peu plus et comprendre mieux. Donc elle a une approche très pédagogique qui nous amène à bien comprendre les enjeux du climat. Puis elle mêle aussi des histoires. Elle bombarde pas les gens de chiffres. Elle dit d'ailleurs souvent que bombarder les gens de chiffres, c'est ou de données très angoissantes, c'est contre-productif. Mais elle a un talent vraiment pour entremêler des éléments essentiels de la science du climat avec des histoires qu'elle raconte, qu'elle amène bien. C'est très fluide, c'est facile à lire. Et donc, il y a cet aspect vraiment de permettre de monter en compétence un petit peu, de mieux comprendre tous ces enjeux climatiques. Et en même temps, effectivement, son message principal... Et c'est un message effectivement d'espoir, c'est que la chose la plus que chacun d'entre nous pouvons contribuer à faire quelque chose pour le climat, tout simplement en parlant. Donc en ayant aussi donc absorbé les éléments de ce livre, on peut plus facilement parler du sujet du changement climatique autour de la dinde à Noël, par exemple, pour reprendre un exemple d'une vidéo qu'elle a faite, qui a fait plusieurs millions de vues. Hein. Ouais. Voilà. Et ce qu'elle dit d'ailleurs dans une autre vidéo, dans un TED Talk qui était un peu la base de ce livre, c'est que voilà, la chose la plus importante qu'on peut faire pour le climat, c'est d'en parler. Donc c'est peut-être contre-intuitif, mais ça donne aussi de l'agence, du empowerment de chacun. Voilà.
Vous dites, je crois qu'elle adopte une perspective typiquement américaine. We can do it.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a un petit peu tendance en France et peut-être un peu plus en Europe. Peut-être en Europe du Sud, d'avoir une vision assez pessimiste des choses. Et il y a un côté américain qui peut interpeller le lecteur français, à l'inverse de certains francophones, comme par exemple Jean-Marc Jancovici, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais c'est intéressant de cette, un peu cette dialectique de quelqu'un qui vient avec une présentation beaucoup plus optimiste, en fait.
Alors justement, défi et espérance, défi, on le comprend, mais espérance, ça peut interroger quand même.
Oui, alors il faut préciser que le terme espérance ici n'est pas utilisé dans un sens élulien. Martin Kopp on parle souvent de l'espérance oubliée de Jacques Ellul. Il s'agit pas d'une espérance ici eschatologique, au sens une espérance dans le fait que Dieu va intervenir pour mettre fin au problème du changement climatique, par exemple. Elle dit d'ailleurs clairement que elle pense que Dieu ne va pas agir magiquement pour répondre au problème, et elle compte sur plutôt l'action des hommes. Ouais. Donc c'est à chacun de nous de se retrousser les manches et de faire quelque chose pour ça. Donc c'est plutôt de l'espoir de finalement à la fois dans des progrès technologiques et aussi dans une forme de contagion, mais au bon sens du terme, donc plutôt de répandre l'importance, finalement, la prise en considération de l'importance de ce problème du changement climatique dans le quotidien des gens, pour que collectivement il y ait une réaction et une action politique aussi, puisque finalement elle dit bien que les actions individuelles sont limitées dans ce qu'elles peuvent
atteindre.
Il faut les deux.
Plaidoyer réaliste et apaisé, c'est le sous-titre. Moi, j'aime bien ce mot apaisé face à une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a de la foi là, dans tout ça. Il y a une espérance chrétienne, il y a une manière de voir Dieu présent malgré tout et accompagnant, j'imagine. C'est aussi comme ça que vous travaillez à Arusha.
Oui, tout à fait. Alors, apaiser, c'est vrai que le mot est très important, parce que elle commence le livre d'ailleurs en racontant un petit peu toutes les injures et toutes les insultes qu'elle reçoit très très régulièrement sur les réseaux sociaux, et le débat sur le changement climatique aux États-Unis est tout sauf apaisé.
Eh oui.
Mais elle est remarquable justement dans ce qu'elle arrive à rester quand même confiante et optimiste dans un climat où les noms d'oiseaux fusent. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce qu'elle invite vraiment à faire, c'est pas aller justement à la confrontation, mais d'aller rejoindre les gens, même ceux qui en apparence semblent le plus opposés de nous par exemple sur la question du climat, mais c'est souvent des packages idéologiques ou des clans, elle appelle, qui font que quand on n'est pas d'accord sur le climat, souvent on va pas être d'accord sur d'autres sujets, ça peut être le coronavirus, ça peut être d'autres choses, mais elle cherche, et c'est une de ses grandes qualités, à aller rejoindre les gens dans ce qu'ils ont de commun avec nous. C'est-à-dire même, elle va même parler à des gens qui font de l'exploitation du pétrole, et donc dans une réunion d'une entreprise de pétrole, et elle se dit, qu'est-ce que j'ai de commun avec eux, en fait? Mais en fait, elle se dit, ben, en fait, les énergies fossiles ont apporté énormément de choses positives dans le monde. Et donc, elle va aller les rejoindre là-dessus en disant, ben, ce que vous faites, c'est important, ça a permis énormément de progrès, etc. Même si, subtilement, à la fin, elle dit, ben, elle bon, maintenant, il faut choses, peut-être aussi envisager une sortie de ça. Mmh. Voilà. Mais d'abord, elle a fait le pas pour rejoindre l'autre là où il est. Et ça, c'est remarquable, alors que notre société a tendance à polariser de plus en plus les gens, et on voit un petit peu sur les réseaux sociaux ce que ça donne.
Est-ce que finalement, il n'y a pas, je vais peut-être vous faire sourire, mais une démarche typique de témoignage du rôle du disciple du Christ, finalement, qui est là, rejoindre l'autre là où il est.
Il y a des passerelles évidentes avec la manière dont on peut aussi partager la bonne nouvelle de l'évangile.
C'est ça. Ouais. Quels sont vos angles d'action avec Arocha en France plus particulièrement? C'est l'occasion aussi d'en parler ce matin.
Vous l'avez bien cité donc en début de propos, de ce que vous avez, quand vous avez présenté l'association. On a deux axes majeurs sur lesquels on travaille depuis le début. L'association fête ses 25 ans cette année en France. Donc on a une action justement d'aller parler des sujets d'écologie, donc que ce soit le changement climatique, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit tout ce qui concerne en fait les problèmes liés à l'écologie, et comment ça impacte notre vie de chrétien et comment en tant que chrétien on devrait être concerné par ces sujets. Donc on a un travail à la fois de plaidoyer, d'aller à la rencontre des gens dans les églises, dans les événements chrétiens, sur les médias comme aujourd'hui. On publie des livres, on fait des formations. Donc on a en ce moment par exemple ce qui constitue la première formation dans le monde protestant dédiée à la sauvegarde de la création, avec en partenariat avec le centre de formation du Binnenberg, qui est un centre mennonite basé en Alsace. Donc on a des cours une fois tous les deux mois à Strasbourg, pour former en fait des cadres évangéliques et protestants sur ces questions d'écologie. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect de notre travail. Un deuxième aspect de notre travail, c'est du travail de terrain où on va prendre soin de milieux naturels et d'espèces à travers des études scientifiques, à travers des programmes de conservation de la nature. Donc
c'est ce que vous faites au Courmet, par exemple.
C'est ce qu'on fait au Courmet, voilà, et c'est ce qu'on fait aussi dans la vallée des Baux de Provence, où on travaille depuis plus de 25 ans sur ces sujets.
Jean-François, je ne l'ai pas encore présenté, mais elle est là avec nous dans le studio de la Maison de la Radio, assise à notre table, attendant gentiment son tour. Que voilà maintenant. C'est notre jeune chroniqueuse Laurie Chamard qui, avec un tel sujet, doit avoir certainement plein de choses à nous dire. Bonjour Laurie.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
C'est à vous.
Aujourd'hui, on parle du climat, des défis, de l'espérance à partir du plaidoyer de Catherine Eo. Et en fait, le climat, c'est comme ma chronique. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on s'en occupe, on y pense, on l'a vraiment en tête. On se dit, demain matin, à la première heure, je m'y mets. Et puis demain, à la première heure, on commence par un petit café pour être bien réveillé. Ensuite, on fait une balade, mais c'est pour se laisser inspirer. Après, on prend un deuxième café, mais avec une amie cette fois, parce qu'elle va nous motiver. Puis, on répond à un message, celui auquel on devait répondre depuis deux jours. Mais maintenant qu'on est sur la messagerie, on peut aussi envoyer cette photo trop rigolote de cette devanture de coiffeur qui s'appelait Elia Bobo, à notre pote Elia Tobo, parce que vraiment, à une lettre près, c'était presque la même chose. Et puis, elle nous répond. Mais de toute façon, on peut écrire une chronique en répondant à des messages à côté. On n'est pas monotache, nous. Bon, allez. On s'y met, mais là, il faudrait qu'on regarde cette vidéo sur Instagram. C'est un Parisien qui va au contact de la nature en visitant les plaines Saint-Denis et le mont Parnasse. Et ça peut être vraiment super inspirant pour une chronique sur le climat. Puis, oh, une loutre trop mignonne. Et voilà, il est 1h26 du matin. Mais demain, promis, à la première heure, on l'écrit cette chronique. Mais demain, promis, on les respecte, ces accords sur le climat. On les sauve, ces loutres trop mignonnes. Bon voilà, tout ça pour dire qu'on procrastine.
Mais que votre vie est passionnante, Laurie. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc attend.
n'est-ce pas, j'ai encore plein d'anecdotes sur les loutres. Je pourrais passer des heures dessus, mais je vais revenir à ma chronique. Car pour le climat, comme pour ma chronique, généralement, on décide pour pas beaucoup de raisons valables de retarder notre objectif pour faire quelque chose de pas très très utile. En tout cas, moi, c'est plutôt rare de me dire que je vais procrastiner en lisant À la recherche du temps perdu de Proust pour me cultiver au passage. Non, le temps, je ne le cherche pas, je le perds tout simplement. Et le scroll, ou le défilement du fil d'actualité en français, le scroll sur les réseaux sociaux, ça coûte environ 2,1 grammes, équivalent de CO2 par minute, sachant qu'un Français passe en moyenne 2h22 sur les réseaux, ça fait l'équivalent de 2,5 km en voiture par jour et 914 km par an.
Ah, et, naturellement, personne ne se sentira visé dans ce studio.
Et puis on a dit qu'on ne parlait pas de chiffres en plus.
Oui.
Mais parce que la procrastination va souvent de pair avec la culpabilité. Parce qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire, on sait qu'on devrait faire autre chose de plus productif. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des gens qui sont des « il faut que », qui existent aussi en « tu devrais ». Tu devrais faire un rétro-planning, tu devrais te mettre des deadlines, tu devrais trouver une personne envers qui tu es redevable. C'est sûr que ça t'aiderait. Et puis le pire, c'est que ces gens-là, bah, ça peut être nous-mêmes. Parce qu'il existe, pour caricaturer, deux types de personnes, ceux qui s'organisent super bien et ceux qui ont besoin de deadlines pour finir ce qu'ils ont à faire, mais la veille à 23h59, parce que oui, mais je travaille mieux sous pression. Et les deadlines, quand on parle de chronique, ça marche plutôt bien. Ils avaient raison en fait, les « il faut que ».
Mais oui, voilà le fameux mail qui demande à la chroniqueuse Laurie si elle a fini sa chronique.
Toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite. Pour les chroniques, donc, ça marche bien, les deadlines. Mais quand on parle de climat, on a du mal à les voir, vu que pour la plupart, elles sont déjà dépassées depuis longtemps. J'ai découvert récemment le principe du bénéfice secondaire. En gros, ce sont les avantages cachés qu'on tire, souvent inconsciemment, de situations négatives. Par exemple, j'arrive pas à me poser pour travailler, je procrastine en passant du temps sur les réseaux, je perds beaucoup d'heures de sommeil et réduis mon espérance de vie, mais je suis au courant des dernières tendances et j'ai l'impression d'être super cultivée sur les loutres. Et le fait d'avoir des bénéfices secondaires, ça rend plus difficile le fait de se détacher d'une habitude, parce qu'elle nous permet de vivre des choses bien aussi. Alors sans vouloir faire ressembler cette chronique à une réunion des PA, les procrastinateurs anonymes, apparemment une des premières solutions pour devenir sobre de procrastination, ça serait d'identifier les bénéfices secondaires, de réaliser quels besoins insatisfaits de nos vies ils comblent. Alors c'est quoi les bénéfices secondaires qu'on tire à garder nos habitudes néfastes pour nos chroniques et pour le climat ? En tout cas, on me dit dans l'oreillette qu'il faudrait trouver la réponse, ça nous aiderait bien.
Trouver les réponses, pas toujours simple, mais déjà au moins se poser les bonnes questions, les repérer. Merci Laurie. Jean-François, peut-être avez-vous envie de réagir ? J'imagine que Catherine et Eau seraient assez d'accord avec ce que Laurie vient de nous dire. C'est aussi une façon d'aborder les choses apaisée et drôle.
Oui, tout à fait. Ben, effectivement, on est des grands procrastinateurs en termes de climat. Et moi, le premier, je ne suis pas là justement pour distribuer des blâmes.
Culpabiliser.
Voilà. Et en même temps, c'est intéressant de voir justement que beaucoup de personnes qui s'intéressent au climat ont parfois tendance, et moi le premier aussi, à devenir des pharisiens du climat, hein, parce que quand on voit à quel point il y a un décalage entre ce qu'on devrait faire et puis ce qu'on fait réellement, et là encore je m'inclus dedans, on a parfois tendance à se dire que il faudrait peut-être que Dieu intervienne et qu'il punisse ceux qui ne veulent pas se conformer à ce qu'on croit être la bonne chose pour le climat.
On se remet pas en question facilement, en fait.
Voilà, et c'est amusant de voir à quel point aujourd'hui les écologistes se sont souvent accusés en fait de beaucoup de choses, et les parallèles qui peuvent être faits avec la façon dont souvent les chrétiens sont aussi accusés d'être des empêcheurs de jouir en rond, c'est-à-dire de profiter de la vie, sur des tas de sujets où les chrétiens, on leur reproche en fait la même chose que ce qu'on est en train de commencer à reprocher aux écologistes, c'est-à-dire de mettre des règles. Et c'est très intéressant de voir un petit peu justement comment l'humanité se saisit de ce problème, de cette nouvelle morale qui est en train de se mettre en place autour des questions d'écologie. Et je crois que vraiment on a besoin des chrétiens aussi, avec le recul des siècles passés, pour être présents dans ce débat.
Alors une dernière question, Jean-François Mouhot. En tant que chrétien, mais allez, protestant, assumons, qu'est-ce qui, selon vous, peut ou doit nous motiver, justement, nous obliger peut-être même à ne pas rester insensible, à ne pas rester immobile face à la situation ?
Ben, je crois, et c'était assez clair aussi dans la vidéo que Catherine Héo a faite et que vous avez citée, qui était une vidéo en fait qu'on avait demandé à Catherine de faire pour une campagne qu'on fait conjointe avec le SEL et Arocha, qui s'intitule « Aimer les plus pauvres, c'est aussi prendre soin de la création ». Et justement, c'est cette articulation entre les principaux commandements de la Bible. Quand la Bible nous dit que les principaux commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, ben pour moi aujourd'hui on peut pas prendre soin du climat, voilà, on peut pas prendre soin du prochain, ou on peut pas aimer Dieu et laisser détruire la création que lui-même a déclaré bonne. Et on sait très bien que les problèmes écologiques et les problèmes climatiques affectent principalement les plus pauvres, les plus démunis, les plus fragiles. Et aujourd'hui, je pense que pour à peu près tous les chrétiens dans le monde, c'est bien acquis que Dieu nous appelle à prendre soin de notre prochain. Et simplement, ce que parfois les gens font pas, c'est le lien entre justement, on continue à polluer, et en fait, l'impact que ça a sur les plus pauvres.
Moi, j'aime beaucoup aussi un verset tout simple, car Dieu a tant aimé le monde, parce que finalement, c'est peut-être ça aussi.
Et dans le grec, c'est Dieu a tant aimé le cosmos.
Oui, oui.
Et on voit bien que parfois ce verset est interprété, et on a raison de l'interpréter comme Dieu a tant aimé l'humanité,
les gens,
moi, vous. Mais on voit bien que dans le verset, le terme cosmos, alors on pourrait discuter pendant des heures, et des théologiens le font, de qu'est-ce que ça veut dire exactement le cosmos dans Jean. Mais on voit que c'est beaucoup plus large,
si on se
réfère à Colossiens 1 aussi. Jésus, la mort de Jésus a en fait été rédemptrice pour l'ensemble de la planète et pas seulement l'ensemble de la création et pas seulement juste pour les humains.
Passionnant, en tout cas un livre à lire, Défi et espérance pour le climat, plaidoyer réaliste et apaisé d'une climatologue, Catherine Héo. Merci Jean-François Mouhot.
Merci Jean-Luc.
Merci Laurie. Je rappelle également que vous êtes donc à la direction d'Arocha France, et qu'Arocha, on peut aussi retrouver toutes les infos sur internet france.arocha, A-R-O-C-H-A. Et pour nous séparer, un vieux cantique, Comme une terre altérée, écrit en français par un pasteur suisse, Edmond-Louis Budry, qui a aussi écrit d'ailleurs le texte du célèbre cantique À toi la gloire, reprenant ici un hymne de James McGranahan, que je vous propose d'entendre dans sa version interprétée par Sébastien Demeré et Jimmy Lahaye.
Terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Marie Le Peintre à la prise de son. L'émission à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin, sur France 2 à 10h dans Présence protestante, retrouvez un documentaire de Virginia Berda sur la présence protestante à Mayotte. Et sur Culture, dans quelques instants, vos informations suivies de Talmudique, présentées par Marc-Alain Wacknin. Moi, je vous retrouve à nouveau à 16h pour le carême protestant avec Marie-Pierre Courneau. On continue avec Ruth, la pourvoyeuse de vie, aujourd'hui, la mort comme élan. Bon dimanche à chacune et chacun.
Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, sont déçus sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser.